Aucune église locale ne grandira sans l'action du Saint-Esprit et sans engagement de la part des croyants. Je le redis, aucune église locale ne grandira sans l'action du Saint-Esprit et sans engagement de la part des croyants. Nous pouvons avoir toutes sortes de rêves, d'ambitions, de projets, mais si l'Esprit de Dieu n'agit pas, il ne se passera rien. Et si nous ne nous investissons pas, il ne se passera rien non plus. La première église a commencé avec deux éléments forts. Un mouvement fort du Saint-Esprit et en même temps un engagement fort des chrétiens. La croissance de l'église a été extraordinaire parce que Dieu a agi puissamment, mais aussi parce que les chrétiens étaient engagés et actifs pour Dieu. Ce matin, je soulignerai l'importance pour nous croyants d'être engagés et actifs pour la croissance de l'Église. Vous savez, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, un événement incroyable a eu lieu. Il y avait comme des feux d'artifice à Jérusalem. Les apôtres et plus de 120 disciples de Jésus ont tous été remplis du Saint-Esprit. C'était spectaculaire. Ils ont commencé à louer Dieu à haute voix, mais dans différentes langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Incroyable. Les Juifs pieux venus de plusieurs pays du monde pour la Pentecôte ont entendu du bruit. Ils ont entendu toutes ces louanges. Ils ont même compris dans quelle langue ces disciples parlaient. Et ils en étaient surpris. Puis, c'est l'apôtre Paul qui explique à cette foule ce qui se passe avec une audace remarquable. Pierre, j'ai dit Paul, Pierre. On a tendance à tellement dire souvent Paul qu'on oublie Pierre. Ouais. Merci pour la rectification. C'était pour voir si vous suivez, n'est-ce pas? Il était difficile de croire que Pierre pouvait parler ainsi parce que quelques semaines plus tôt, il avait nié connaître Jésus. Et même l'avait renié. Mais voilà qu'il parle avec une autorité, une audace, un enthousiasme nouveau. Waouh ! De toute évidence, l'Esprit de Dieu n'avait pas seulement fait du bruit et donné aux disciples de Jésus le pouvoir de parler d'autres langues avec des louanges. Il avait travaillé au plus profond de leur cœur. L'Esprit transforme le cœur, les amis. L'Esprit transforme l'être intérieur. Et dans ce que je viens de dire, il rend courageux, audacieux pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. La suite est encore plus incroyable. Le Saint-Esprit s'est en quelque sorte, on pourrait dire, déversé sur les auditeurs qui ont écouté Pierre. Le Saint-Esprit leur a ouvert les yeux pour comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Et il a touché leur cœur. Ils voulaient savoir, mais quoi faire ? Nous sommes perdus, comment on fait pour venir à Jésus-Christ? Après que Pierre ait prêché, beaucoup ont cru en Jésus-Christ et ont été baptisés. C'était comme une avalanche de neige. Par cette œuvre surnaturelle du Saint-Esprit, il est dit que ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Wow! En une seule journée, 3000 personnes! Incroyable. Examinons de plus près ce que le Saint-Esprit a produit chez cette foule de croyants qui se sont fait baptiser et qui se sont engagés à suivre Jésus. La Bible dit dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Je vous laisse le temps de trouver ce texte dans votre Bible. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Donc c'est dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Actes chapitre 2. Versets 42 à 47. Je cite donc Acte 2, chapitre 42, versets 42 à 47. Les chrétiens donc s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Waouh ! Quelle belle vie d'église, n'est-ce pas, à Jérusalem ? Alors, bien sûr, cette église n'était pas parfaite, mais elle nous laisse avec quatre éléments essentiels que nous devrions trouver dans toute église vivante et remplie du Saint-Esprit. Voici le premier élément essentiel d'une église vivante, remplie du Saint-Esprit, d'une église en croissance. Premièrement, écoutez l'enseignement biblique. Dans notre texte, c'est l'enseignement des apôtres. Jésus-Christ a choisi et inspiré les apôtres pour poser les fondements de la foi chrétienne. Dans leur enseignement, ils expliquent ce que Jésus a accompli sur la croix, ce que cela signifie, et dans toute leur explication, ils encouragent l'Église avant le retour de Christ. Et nous bénéficions, nous, aujourd'hui, de ce que les apôtres ont enseigné tout au long du Nouveau Testament. Mes amis, une Église vivante, remplie de l'Esprit de Dieu, et en croissance, c'est une Église qui écoute la parole de Dieu et cherche à l'appliquer dans tous les domaines de sa vie. La croissance de l'Église, sans étude régulière et sérieuse de la Bible et sans obéissance, fera de l'Église une Église superficielle. De plus, l'Église ne sera pas assez forte pour affronter les hérésies, les faux enseignements, les enseignements douteux, les épreuves, les persécutions, si elle n'est pas pleinement ancrée dans la Bible, dans la parole de Dieu. Un des dangers pour nous, concernant la parole de Dieu, est que nous ne restons pas, ou plus plutôt, des apprentis. C'est un danger de penser qu'après quelques années, ou plusieurs années de vie chrétienne, on a déjà parcouru toute la Bible et tout ce qu'il faut savoir. C'est bon. Oh, Manuel est en train de prêcher sur Actes 2, 42 à 47. Ah, mais je connais, c'est bon. Et puis nos oreilles, on écoute, mais à demi. On n'est plus là. La Bible nous enseigne, les amis, que nous sommes des disciples. Nous sommes en fait des apprentis à vie qui restent au pied de leur maître pour apprendre de lui, mieux le connaître et faire sa volonté. En d'autres termes, nous n'arrêterons jamais d'apprendre, même dans les textes que nous connaissons par cœur, que nous avons vus des milliers de fois. Nous serons toujours des élèves. Je crois que c'est John Stott qui disait qu'au moment où, justement de notre texte, où l'Église est née, il disait c'est comme si c'est une grande école qui a commencé, avec plein d'élèves, parce qu'ils ont commencé par écouter la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que nous sommes des disciples, les amis. Plus nous creuserons la parole de Dieu, plus nous nous apercevrons qu'il y a des trésors infinis à découvrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Une église qui est saine, qui continue à grandir de façon solide, est une église où chaque chrétien reste un apprenti. Nous sommes d'éternels apprentis, mes amis. Quand je suis allé à l'Institut biblique de Genève pour 4 ans d'études, afin de devenir pasteur, je pensais qu'au bout de toutes ces années, j'allais maîtriser une bonne partie de la parole de Dieu, voire presque tout. Je pensais que j'allais devenir un maître en la matière, en connaissance biblique. Et puis, la réalité m'a frappé fort au visage. Après mes années d'études, j'ai compris quelque chose de complètement différent. Je lis la Bible avec la conviction que je ne connais pas grand-chose et que ce livre est beaucoup plus profond que je ne le pensais. Il me faut une éternité pour tout comprendre. Je dois donc rester un éternel apprenti. Comment l'être limité que je suis peut maîtriser l'être de Dieu qui est illimité. Impossible. Il y a tellement de choses à découvrir. Et je remarque cela jour après jour. Un autre danger aujourd'hui est de donner plus de poids au prédicateur qu'à la parole de Dieu. Oh! Comme si les prédicateurs avaient plus de puissance, plus de poids que la parole de Dieu elle-même. Alors que la Bible dit le contraire. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible dit ceci, « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement, pas à demi, parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. » Parfaitement. La parole de Dieu est utile pour faire tout ce qui plaît à Dieu. Elle est suffisante, les amis, pour toute notre vie, pour notre croissance spirituelle, pour la croissance de l'Église. Il n'y a pas de nouvelles révélations, les amis. Tout est dans la parole de Dieu, pas ailleurs. L'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Il le dit à un moment où plusieurs peuvent être éloquents dans leur manière de prêcher. Mais lui dit, « La puissance n'est pas dans l'éloquence, elle est dans cette parole de Dieu. » L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est cette bonne nouvelle qui transforme les vies. L'évangile est la puissance de Dieu. C'est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui peut nous transformer. Mes amis, ne courons pas après les prédicateurs éloquents. Bien parler, être éloquent, persuasif et savoir émouvoir son auditoire n'est pas une garantie que la prédication est biblique. Il y a tellement de prédications aujourd'hui sur Internet qui ne sont que du développement personnel. Mais pas du tout la parole de Dieu. Je ressors avec « ça m'a stimulé, ça m'a fait du bien ». Mais est-ce que je connais mieux la parole de Dieu? Est-ce que on m'a fait creuser les Écritures? À la fin, je dis « pas vraiment ». Pas vraiment. Parole de sagesse, populaire des fois, mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Cherchons des prédications qui exposent fidèlement la parole de Dieu, le texte biblique. Car ce ne sont pas les prédicateurs qui transforment, mais la parole de Dieu. L'apôtre Paul avait donné ce conseil à Timothée, « Consacre-toi à la lecture publique des Écritures. » Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, j'aime ce que le pasteur Francis Chan a écrit à propos de ce texte. « Et si nous mettions ce conseil davantage en pratique, qui sait si nous ne verrions pas se lever une nouvelle génération dépendant davantage de la parole de Dieu que de prédicateurs. » Mes amis, soyons une église saturée de la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui dévore la parole de Dieu, qui mémorise la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit et la met en pratique. Deuxième élément essentiel d'une église vivante, remplie du Saint-Esprit, être en communion les uns avec les autres. Dans notre texte, les chrétiens s'attachaient à vivre en communion les uns avec les autres. Ce qui crée la communion entre des chrétiens, c'est qu'ils sont tous enfants de Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ mort et ressuscité. Ils ont également tous reçu la vie de Dieu en eux, le Saint-Esprit. Les chrétiens sont l'Église, la famille de Dieu. La deuxième chose qui fait aussi la communion des chrétiens, c'est un amour surnaturel entre eux. Nous le voyons au verset 45 où il est dit quelque chose d'extraordinaire. Les chrétiens vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Ils font preuve ici d'une générosité extraordinaire. Ils se soucient vraiment les uns des autres et sont prêts à donner leurs biens pour répondre aux besoins des autres. Cette extrême générosité ne peut venir que de la puissance de Dieu. Un danger nous guette, les amis. Étant dans une culture individualiste, cet individualisme nous influence que nous en soyons conscients ou non. De plus, une chose a renforcé l'individualisme, c'est la période Covid, avec le confinement. Nous avons appris à vivre plus à la maison. Et les appareils numériques, oui, ont pris une place énorme dans les foyers. Ce n'est pas rare de voir des enfants en bas âge avec une tablette pendant des heures. Oh ! Vivre l'Église est devenu vraiment un très grand défi aujourd'hui. Refusons l'individualisme. Refusons de réduire l'Église à des vidéos YouTube. Refusons des relations superficielles. Oui, bonjour, ça va, oui, ça va. C'est quoi ça ? Ça, c'est l'amour surnaturel que nous devons vivre. Soyons une Église aimante et généreuse, où nous prenons soin les uns des autres de façon surnaturelle. Troisième élément essentiel d'une Église vivante et remplie du Saint-Esprit, adorer Dieu ensemble. Dans notre texte, il est dit au verset 42 que les chrétiens s'attachaient à rompre le pain et à prier ensemble. Et plus loin, dans le verset 46 et 47, tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient où ? Dans la cour du temple. Ils rompaient le pain ou dans les maisons. Ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Les chrétiens, les amis, adoraient Dieu ensemble au temple et dans les maisons par la Sainte Cène. On le voit dans l'expression « rompre le pain ». La Sainte Cène est le repas institué par Jésus, qui représente son corps et son sang. On peut voir aussi dans « rompre le pain » qu'ils étaient aussi dans des repas ensemble. Et c'est vraiment lors de repas ensemble que les chrétiens prenaient régulièrement du pain et qui représente le corps de Christ et du vin qui représente le sang de Christ. Ce serait bien qu'on puisse vivre cela, hein, pendant un repas d'église. Puis d'un coup, on s'arrête et puis on se met à prendre le repas du Seigneur. Ces chrétiens ont proclamé ainsi par le repas que Jésus-Christ a institué que le sacrifice de Jésus est au centre de la vie d'église. À travers ce repas, ils se souvenaient de l'immense amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et comment il les a sauvés du péché, de la mort et de l'enfer pour la vie éternelle. Ils se souvenaient également de l'immense privilège que Dieu leur a donné d'être en communion avec lui et en communion les uns avec les autres, avec la famille de Dieu par la mort de Christ. Les chrétiens adoraient Dieu ensemble au temple et dans les maisons aussi par les prières. Toutes les formes de prière étaient adressées à Dieu. La prière était très importante pour les chrétiens. On le voit tout au long du livre des Actes. Ils savaient que sans la prière, ils ne pourraient pas vivre ce que Dieu attend d'eux et accomplir la mission d'annoncer l'évangile au monde entier. L'un des sujets qui certainement les préoccupait le plus était l'annonce de l'évangile pour voir des vies transformées. Les chrétiens adoraient Dieu ensemble au temple et dans les maisons, aussi par la louange au temple. On peut imaginer des temps de chant et de prière comme nous le vivons ici le dimanche matin au culte. Il y avait les psaumes qui étaient lus, chantés. Le plus grand sujet de gratitude était la mort et la résurrection de Jésus et tout ce qui en découle, n'est-ce pas ? Cette reconnaissance devait certainement être sur toutes les lèvres des croyants. Dans notre texte, il est fait mention de la joie. Et je pense qu'ici, il est question d'une joie qui découle non seulement de ce que Jésus-Christ a fait pour eux, mais aussi de leur louange constante, ensemble, de vivre des choses ensemble, enfin, de vivre ces quatre éléments que nous sommes en train de voir ce matin. Le danger pour nous, concernant la communion fraternelle, ou plutôt concernant, pardon, le point sur l'adoration, est de faire des réunions de prière, des réunions de groupe de maison, du culte dimanche matin, des options. L'Église de Jésus-Christ n'aurait jamais connu une croissance, les amis, aussi forte, cette croissance forte tout au long des années, jusqu'à aujourd'hui. Cette croissance n'aurait jamais pu se vivre si les chrétiens étaient restés chez eux ou s'ils s'étaient rendus rarement aux différentes réunions pour grandir ensemble dans leur relation avec Christ. Ah non, là je suis fatigué. J'ai pas envie d'aller à l'église. J'ai d'autres choses à faire. Ah non, je suis Facebook là et je suis dans une conversation, c'est tellement bon. On verra ça après. Ce n'était pas le cas. L'Église, on parle ici d'être assidu. L'autre danger est de ne plus accorder une place importante à la prière, à la louange, à la Sainte Cène. Dans une Église en croissance, la prière est considérée comme essentielle, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La Sainte Cène est importante parce que Jésus-Christ est notre Sauveur. Sans lui, il n'y a pas d'espoir, pas d'espérance. Et la Sainte Cène, enfin plutôt la louange, est très importante, car nous considérons que notre plus grand trésor, c'est Dieu. Il mérite notre louange constante. Mes amis, que nos rassemblements soient une priorité et que l'adoration soit vécue toujours plus profondément en communauté par la prière, la louange et la Sainte Cène. Quatrième élément essentiel d'une vie vivante, une vie d'église vivante et remplie du Saint-Esprit. Partager l'évangile au monde. Dans notre texte, il écrit au verset 47 que les chrétiens louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Ici, la prédication des apôtres, la vie de l'Église, leur amour les uns pour les autres et le partage de l'Évangile étaient de puissants témoignages de l'amour de Dieu pour ceux qui n'étaient pas encore chrétiens. Notre texte précise que c'est Dieu lui-même qui a sauvé les auditeurs, et non les chrétiens. Jésus en personne, par son esprit, accomplit sa promesse de bâtir son Église. Il le dit et il le fait. Les nouveaux chrétiens n'étaient pas envoyés dans la nature, mais Dieu les ajoutait où ? À leur communauté. Ce qui nous rappelle qu'être chrétien signifie aussi appartenir à une communauté, une église locale. La mention des 3000 convertis n'était pas qu'un premier élan qui s'est ensuite essoufflé. Au contraire, le livre des Actes mentionne à plusieurs reprises la croissance numérique de l'Église. Le pasteur David Platt a écrit ceci, je le cite. « L'Église a démarré en acte 2 quand 3000 personnes se sont converties. On estime que le nombre de chrétiens en l'an 100 s'élevait à 25 000. » En l'an 305, ils étaient plus de 30 millions. Et voici la question qu'il pose. Comment l'Église a-t-elle pu grandir aussi rapidement alors qu'elle était persécutée? Les premiers chrétiens avaient compris leur devoir de faire des disciples. Est-ce que nous avons compris notre devoir de faire des disciples? L'un des dangers auxquels nous sommes confrontés dans la croissance de l'Église et notre confort. Le confort est présent lorsque nous sommes satisfaits du nombre de personnes dans cette Église et que nous ne cherchons plus à grandir. Comme l'a dit le pasteur Chris Short, qui a été pasteur pendant une dizaine d'années à l'Église d'Ozoir, il dit ceci, il faut prendre la décision de devenir une plus grande Église. Cette orientation doit être claire pour tous, d'abord au sein du conseil de l'Église, donc les responsables, et ensuite dans la communauté, dans son ensemble. Et on voit bien que le livre qu'il a écrit s'appelle « Décider de grandir ». Et pour lui, c'est tellement important pour Christ, et il le disait dans ses réunions, l'Église doit décider de grandir. Et vous savez pourquoi ? La réponse est très simple. Parce que si nous ne décidons pas de grandir, nous ne ferons rien pour grandir. Mais quand nous prenons vraiment ces décisions ensemble, nous allons nous y investir pour de bon. Il est important de souligner que nous ne recherchons pas la croissance uniquement pour la croissance. Mais nous sommes préoccupés par le souci de Dieu qui veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés. Mes amis, désirons que Dieu se révèle à Ozoir et dans le monde entier. Prions qu'il attire à lui tous ceux qui ne sont pas encore à lui, pour qu'ils reçoivent la vie éternelle. Par son esprit, Dieu nous a mis à cœur d'annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre et d'être le sel et la lumière du monde dans cette vie d'Ozoir et aux alentours. Il faut donc s'attendre ensemble à voir des conversions, à voir des personnes qui passent de la mort à la vie, à voir des baptêmes, des engagements, à suivre Jésus. Mes amis, partageons l'évangile à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Prions pour eux. Partageons l'évangile avec toute l'Église, à travers sa vie, ses activités, les événements que nous proposons pour le bonheur de cette ville et de ses environs. Nous avons vu jusqu'ici qu'une Église saine, vivante, remplie du Saint-Esprit et en croissance, devrait vivre quatre choses essentielles. Écouter l'enseignement biblique, être en communion les uns avec les autres, adorer Dieu ensemble, partager l'évangile avec ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Mais un mot est très important avant de finir. Ce mot fait toute la différence entre la première église de Jérusalem et malheureusement beaucoup d'églises actuelles. Le mot est « s'attacher » ou « persévérer ». Gardez ce mot. Persévérer. Combien d'églises peinent à grandir, comme Dieu le veut, à cause d'un manque de persévérance des chrétiens dans ces quatre éléments que nous avons vus. Pour que l'Église vive les quatre éléments essentiels dont nous avons parlé, elle a non seulement besoin, ça c'est important de le redire, non seulement besoin de l'action du Saint-Esprit, mais aussi de persévérer. Quelqu'un disait « percez et vous verrez ». Je trouvais ça pas mal. Je conclue. Je répète, aucune église locale ne grandira sans l'action du Saint-Esprit et sans engagement de la part des croyants. Nous pouvons avoir toutes sortes de rêves, d'ambitions, de projets, mais si l'Esprit de Dieu n'agit pas, il ne se passera rien. Et si nous ne nous investissons pas, il ne se passera rien non plus. Soyons donc une église qui ne cesse de prier pour être toujours plus remplie du Saint-Esprit, et soyons une église qui persévère dans ses engagements, pour que Dieu soit toujours plus honoré, et pour que des hommes et des femmes viennent à Jésus, pour que l'Église ne cesse de grandir. Je voudrais maintenant vous proposer un défi personnel. Ce défi est sérieux, très sérieux pour Dieu. Je ne parle pas du défi que nous avons vécu il y a dans nos vacances. On était en Espagne au niveau d'un phare et puis avec les enfants, on voulait absolument faire du bateau. Et il y avait un bateau proposé, ça ne coûtait pas cher pour y aller. Et Fanny, elle me dit, c'est une heure, on peut y aller pour une heure ou pour trois heures. Je dis, une heure, c'est beaucoup. Si je dis ça, c'est parce que je me connais. Et on a pris celui d'une heure. Le truc, c'est que quand on est parti, quand on a fait la première demi-heure, au début, dans les cinq premières minutes, on va dire, ça allait, dix premières minutes, on va dire. On passe, mais au moment où on a quitté une sorte de place où c'était plat, la mer était agitée, tout le long. Et nos visages ont changé de couleur. J'ai vu Noé qui était tout à fond et tout, il est commencé à venir sur moi, à se coucher, Lucie, tout ça. Fanny, enfin, on était un peu en train de se calmer. La première demi-heure, on s'est dit, j'ai regardé l'heure, j'ai fait, encore une demi-heure. Nous avons relevé ce défi, les amis. Nous sommes rentrés, il n'y a pas eu de problème quelconque. Je parle maintenant d'un défi sérieux. Dieu nous appelle tous à faire un pas de plus ce matin, dans cette nouvelle rentrée. Et j'aimerais vous proposer sept défis. Mais ces sept défis ne sont pas pour les prendre en entier, mais c'est pour en prendre un seul. Je crois que Dieu appelle ceux qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus-Christ à venir à lui ce matin. Tu n'as pas encore dit oui à Jésus. Tu n'as pas encore reçu la présence de Dieu en toi, l'assurance de sa présence, de la vie éternelle. Viens à lui ce matin. Demande pardon à Dieu pour tes fautes et mets toute ta confiance en Jésus pour recevoir le pardon des péchés, la vie éternelle. Dieu appelle ceux qui ont laissé un péché dominer, les dominer, à persévérer dans la sainteté. C'est le deuxième point. Revenez à Dieu et engagez-vous maintenant à lutter contre le péché avec l'aide de Dieu, à crier vers lui sans cesse jusqu'à voir des victoires. Et peut-être que c'est trop dur pour vous et que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Allez donc voir un chrétien de confiance qui va vous aider dans votre lutte. Le jour où j'ai commencé à ouvrir mon cœur à quelqu'un sur une lutte contre le péché, j'ai vu des victoires. Alors ne reste pas seul, mon frère, ma sœur. Troisièmement, Dieu appelle ceux qui ont négligé leur vie de prière à persévérer dans la prière. Engagez-vous maintenant à prendre plus de temps dans la prière. Dès cette semaine, vous pouvez commencer par assister à une, deux ou trois des soirées de prière de cette semaine. Quatrième défi. Dieu appelle ceux qui ont négligé la lecture et la méditation de la Bible à persévérer pour être plus réguliers dans ce domaine. Prenez la décision ce matin de commencer à lire la Bible avec un plan de lecture quotidien. Et si vous n'en avez pas un, vous pouvez venir nous voir pour que nous puissions vous en proposer un. Ou vous pouvez tout simplement vous inscrire au cours Fondement. Et là, ce sera déjà un début pour creuser les Écritures. Cinquième défi. Dieu appelle ceux qui ne servent pas dans l'Église ou qui ont abandonné leur zèle dans le service à s'engager, à persévérer pour servir la communauté. Engagez-vous cette semaine à faire un pas de plus. Ça peut être un premier service qui est d'encourager un frère, une sœur dans la foi. Ou vous pouvez venir nous voir aussi pour que nous puissions vous aider à vous impliquer avec les talents et les capacités que Dieu vous a données. Sixième défi. Dieu appelle ceux qui ont peu de relations avec des frères et sœurs chrétiens à s'engager pour des relations plus profondes, des relations fraternelles. Engagez-vous en prenant plus de temps avec l'un ou l'autre frère et sœur que vous connaissez ou en vous joignant à un groupe de maison. Comme j'ai dit tout à l'heure, allez voir Axon pour cela. Et puis, septième et dernier défi. Dieu appelle ceux qui ne sont pas réguliers, qui ne sont pas engagés dans la vie de l'Église, à persévérer dans leur engagement, dans la communauté. Engagez-vous maintenant à plus être irrégulier, mais à être régulier dans les réunions de l'Église pour votre bien spirituel, pour être vous aussi des bénédictions pour les autres. Vous allez tellement recevoir. Et puis peut-être, pour vous, c'est tout simplement en devenant membre de cette Église. Mes amis, j'ai donné les 7 points. Dans quel domaine devons-nous répondre à l'appel de Dieu ? Dans quel domaine faut-il persévérer ? Peut-être dans plusieurs domaines, mais je vous invite à nous engager ce matin avec un seul domaine. Juste une petite minute de silence pour que vous puissiez choisir un des 7. Et après cette minute de silence, je vous proposerai de ceux qui se sont engagés de vous lever. Et en nous levant, nous voulons signifier ensemble notre désir de persévérer pour honorer Dieu et pour la croissance de l'Église. Donc prenons juste une minute de silence pour relever le point sur lequel on dit « Ce point-là, je veux persévérer dans ce point-là. Je veux faire un pas de plus, je m'engage maintenant. » Et puis ensuite, nous nous leverons pour nous engager. Prenons ce temps dans le silence maintenant. Voilà, je vous invite maintenant à vous lever pour si vous êtes engagé dans l'un ou l'autre point d'engagement. Ceux qui se lèvent maintenant, ce sont ceux qui ont dit « maintenant je m'engage ». Moi, je suis levé sur un des points. Je vais prier. Notre Dieu, merci d'avoir fait l'impossible en Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés et de la mort. Merci parce que tu bâtis ton Église. L'Église n'est pas un club, l'Église n'est pas un bâtiment, ni des programmes, des événements. C'est du sérieux. Ce sont des personnes que tu as sauvées. L'Église, c'est ta famille. L'Église est aussi la stratégie que tu as choisie pour atteindre le monde. Merci parce que depuis la naissance de l'Église, tu n'as cessé d'œuvrer pour sa croissance en lui donnant l'Esprit-Saint. Nous avons vu ce matin qu'une Église saine, vivante, remplie du Saint-Esprit et en croissance, devrait vivre quatre choses essentielles. Écouter ta parole, être en communion les uns avec les autres, adorer Dieu ensemble, partager l'Évangile à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Notre Dieu, aide-nous à vivre pleinement ces quatre éléments. Tu as entendu et vu maintenant notre désir de progresser dans un domaine. Nous nous sommes engagés maintenant. Aide-nous ensemble à tenir notre engagement et à persévérer. Nous voulons venir tenir notre engagement parce que tu mérites tout de nous. Et nous voulons te plaire, t'honorer, assumer pleinement notre responsabilité pour la croissance de ton Église. Notre Dieu, nous nous attendons à toi dans cette rentrée. Que nous te voyons agir en nous et au travers de nous pour ta seule gloire. Amen.